Les mémoires d'un âne par la comtesse de Ségur, 7e cassette, première face, page 222. Chapitre 25, la réparation. Pendant que je cherchais en vain ce que je pourrais faire pour témoigner mon repentir à Auguste, les enfants se rapprochèrent de la place où je réfléchissais tout en broutant de l'herbe. Je vis qu'Auguste restait à une certaine distance de moi et qu'il me regardait d'un air méfiant. « Il fera chaud aujourd'hui, » dit Pierre. « Je ne crois pas qu'une longue promenade soit agréable. Nous ferions mieux de rester à l'ombre dans le parc. »«
Pierre a raison, » dit Auguste, « d'autant plus que depuis la maladie dont j'ai manqué mourir, je suis resté faible et je me fatigue facilement d'une longue course. »
C'est pourtant Cadichon qui a été la cause de ta maladie, dit Henri. Tu dois lui en vouloir.
Oh, je ne crois pas qu'il l'ait fait exprès. Il aura eu peur de quelque chose sur le chemin. La frayeur lui aura fait faire un saut qui m'a jeté dans cet affreux fossé. Ainsi, je ne le déteste pas, hein, seulement...
Seulement quoi, dit Pierre?
Ben, seulement j'aime mieux ne plus le monter.
La générosité de ce pauvre garçon me toucha et augmenta mes regrets de l'avoir si fort maltraité. Camille et Madeleine proposèrent de faire la cuisine. Les enfants avaient bâti un four dans leur jardin. Ils le chauffaient avec du bois sec qu'ils ramassaient eux-mêmes. La proposition fut acceptée avec joie. Les enfants coururent demander des tabliers de cuisine et ils revinrent tout préparés dans leur jardin. Auguste et Pierre apportèrent le bois. Ils cassaient chaque brin en deux et en remplissaient leur four. Avant de l'allumer, ils se rassemblèrent pour savoir ce qu'ils allaient servir pour leur déjeuner.
« Je ferai une omelette, » dit Camille. « Moi, une crème au café, » reprit Madeleine. « Moi, des côtelettes, » dit Elisabeth.
« Et moi, une vinaigrette de veau froid, » dit Pierre. « Moi, une salade de pommes de terre, » dit Henri. Et Jacques dit, « Moi, des fraises à la crème. « Moi, des tartines de pain et de beurre, » dit Louis.
« Et moi, du sucre râpé, » dit Henriette. « Et moi, des cerises, » dit Jeanne.
« Et moi, je couperai le pain, je mettrai le couvert, je préparerai le vin et l'eau, et je servirai tout le monde, » ajouta Auguste.
Et chacun alla demander à la cuisine ce qu'il lui fallait pour le plat qu'il devait fournir. Camille rapporta des œufs, du beurre, du sel, du poivre, une fourchette et une poêle.
« Il me faut du feu pour fondre mon beurre et pour cuire mes œufs, » dit-elle. « Auguste, Auguste, du feu s'il vous plaît. »«
Où faut-il l'allumer ?»«
Près du four, dépêchez-vous, je bats mes œufs. »
Madeleine s'écria.
« Auguste, Auguste, courez à la cuisine me chercher du café pour ma crème que je fouette. Je l'ai oublié. Vite, dépêchez-vous.
Ah, »« Il faut que j'allume du feu pour Camille. » »«
Après, » dit Madeleine, « allez vite chercher mon café. Ce ne sera pas long et je suis pressée. »
Auguste partit en courant.
« Auguste, Auguste, » cria Elisabeth, « il me faut de la braise et un grill pour mes côtelettes. Je finis de les couper proprement. »
Auguste, qui accourait avec le café, repartit pour le grill. « Il me faut de l'huile pour ma vinaigrette !» demanda Pierre. « Et moi du vinaigre pour ma salade !» réclama Henri. « Auguste, vite, de l'huile et du vinaigre !» Auguste, qui rapportait le grill, retourna en courant chercher le vinaigre et l'huile.
« Eh bien, mon feu, » dit Camille, « c'est comme ça que vous l'allumez, Auguste. Mes œufs sont battus. Vous allez me faire manquer mon omelette.
Ben, »« On m'a donné des commissions. Je n'ai pas encore eu le temps d'allumer le bois. »«
Et ma braise, » dit Elisabeth, « où est-elle, Auguste ?» « Vous avez oublié ma braise ?»«
Ah non, Elisabeth, mais je n'ai pas pu, on m'a fait courir de tous les côtés. »«
Je n'aurai pas le temps de faire griller mes côtelettes, dépêchez-vous, Auguste. »«
Il me faut un couteau pour couper mes tartines, » dit Louis. « Vite, un couteau, Auguste. »« Je n'ai pas de sucre pour mes fraises, » reprit Jacques. « Râpe du sucre pour mes fraises, râpe du sucre, Henriette, dépêche-toi. »«
Je râpe tant que je peux, » dit Henriette, « mais je suis fatiguée. Je vais me reposer un peu, j'ai si soif. » « Mange des cerises, » dit Jacques. « Moi aussi, j'ai soif. »«
Et moi donc, » dit Jacques. « Je vais en goûter un peu. Cela rafraîchit la langue. »« Je veux me rafraîchir un peu aussi, » dit Louis. « C'est fatigant de faire des tartines. »« et voilà les quatre petits, Henriette, Jeanne, Jacques et Louis, qui entourent le panier de cerises.
Asseyons-nous, dit Jeanne, ce sera plus commode pour se rafraîchir.
Ils se rafraîchirent si bien qu'ils mangèrent toutes les cerises. Quand il n'en resta plus, ils se regardèrent avec inquiétude.
Il ne reste plus rien, dit Jeanne. Ils vont nous gronder, dit Henriette.
Mon Dieu, dit Louis avec inquiétude, comment faire? Demandons à Cadichon de venir à notre secours, s'écria Jacques.
Mais que veux-tu que fasse Cadichon, dit Louis. Il ne peut pas faire qu'il y ait des cerises quand nous avons tout mangé.
C'est égal, dit Jacques.
Cadichon, mon bon Cadichon, viens nous aider. Vois notre panier vide et tâche de le remplir.
J'étais tout près des quatre petits gourmands. Jacques me mettait le panier vide sous le nez pour me faire comprendre ce qu'il attendait de moi. Je le flairai et je partis au petit trot. J'allais à la cuisine où j'avais vu déposer un panier de cerises. Je le pris entre mes dents, je l'emportai en trottant et je le déposai au milieu des enfants, encore assis en rond près des noyaux et des queues de cerises qu'ils avaient mis dans leur assiette. Un cri de joie accueillit mon retour. Les autres se retournèrent tous à ce cri et demandèrent ce qu'il y avait.
« C'est Cadichon, c'est Cadichon !» s'écria Jacques.
« Tais-toi, lui dit Jeanne, ils sauront que nous avons tout mangé. »«
Tant pis s'ils le savent, répondit Jacques. Je veux qu'ils sachent aussi combien Cadichon est bon et spirituel. » Et courant à eux, il leur raconta comment j'avais réparé leur gourmandise. Au lieu de gronder les quatre petits, ils louèrent Jacques de sa franchise et donnèrent aussi de grands éloges à mon intelligence. Pendant ce temps, Auguste avait allumé le feu de Camille, la braise d'Élisabeth, Camille faisait cuire son omelette, Madeleine finissait sa crème, Élisabeth grillait ses côtelettes, Pierre coupait son veau en tranches pour y faire un assaisonnement. Henri tournait et retournait sa salade de pommes de terre, Jacques faisait une bouillie de ses fraises et de sa crème, Louis achevait une pile de tartines, Henriette râpait son sucre qui débordait du sucrier, Jeanne épluchait les cerises du panier, et Auguste, suant, soufflant, mettait le couvert, courait pour avoir de l'eau fraîche, pour rafraîchir le vin, pour embellir l'aspect du couvert avec des bateaux de radis, de cornichons, de sardines, d'olives. Il avait oublié le sel, il n'avait pas songé au couvert, il s'apercevait que les verres manquaient, il découvrait des hannetons et des moucherons tombés dans les verres, dans les assiettes. Quand tout fut prêt, quand tous les plats furent placés sur la nappe, Camille se frappa le front.
Ah, dit-elle, nous n'avons oublié qu'une chose, c'est de demander à nos mamans la permission de déjeuner dehors et de manger de notre cuisine.
Courons vite, s'écrièrent les enfants, Auguste gardera le déjeuner. Et s'élançant tous vers la maison, ils se précipitèrent dans le salon où étaient rassemblés les papas et les mamans. La présence de ces enfants, rouges, haletants, avec des tabliers de cuisine qui leur donnaient l'air d'une bande de marmitons, surprit les parents. Les enfants, courant chacun à leur maman, demandèrent avec une telle volubilité la permission de déjeuner dehors qu'elles ne comprirent pas d'abord la demande. Après quelques questions et quelques explications, la permission fut accordée et ils retournèrent bien vite rejoindre Auguste et leur déjeuner. Auguste avait disparu.
Auguste, Auguste!
Me voici,
répondit une voix qui semblait venir du ciel. Tous levèrent la tête et aperçurent Auguste perché au haut d'un chêne et qui se mit à descendre avec lenteur et précaution.
Et pourquoi as-tu grimpé là-haut?
Quelle drôle d'idée tu as eue, dirent Pierre et Henri. Auguste descendait toujours sans répondre. Quand il fut à terre, les enfants virent avec surprise qu'il était pâle et tremblant.
« Pourquoi avez-vous grimpé à l'arbre, Auguste, et que vous est-il arrivé ?» demanda Madeleine.
« Sans Cadichon, vous n'auriez retrouvé ni moi, ni votre déjeuner.
C'est pour sauver ma vie que je suis monté au haut de ce chêne, » dit Auguste.
« Raconte-nous ce qui est arrivé, » dit Pierre. « Comment Cadichon a-t-il pu te sauver la vie et préserver notre déjeuner ?»«
Mettons-nous à table, dit Camille. Nous écouterons en mangeant, je ne veux pas. »
Ils se placèrent sur l'herbe autour de la nappe. Camille servit l'omelette qui fut trouvée excellente. Élisabeth servit à son tour ses côtelettes. Elles étaient trop bonnes, mais un peu trop cuites. Le reste du déjeuner vint ensuite. Pendant qu'on mangeait, Auguste raconta ce qui suit.
À peine étiez-vous partis que je vis accourir les deux gros chiens de la ferme, attirés par l'odeur du repas. Je ramassai un bâton et je crus les faire partir en le brandissant devant eux. Mais ils voyaient les côtelettes, l'omelette, le pain, le beurre, la crème. Au lieu d'avoir peur de mon bâton, ils voulurent se jeter sur moi. Je lançai le bâton à la tête du plus gros qui sauta sur mon dos.
Comment sur ton dos, dit Henri. Il avait donc tourné autour de toi?
Non, dit Auguste en rougissant. Mais j'avais jeté mon bâton, je n'avais plus rien pour me défendre. Et tu comprends qu'il était inutile que je me fisse dévorer par tes chiens affamés.
Je comprends, reprit Henri d'un ton moqueur. Je comprends que c'est toi qui avais tourné les talons et qui te sauvais.
Je m'en allais pour vous chercher, dit Auguste. Les maudites bêtes coururent après moi lorsque Cadichon vint à mon secours en saisissant par la peau du dos le plus gros des chiens. Il le secouait pendant que je grimpais à l'arbre. L'autre sauta après moi, m'attrapa par mon habit et m'aurait mis en pièces si Cadichon ne m'eût pas encore préservé de ce méchant animal. Il donna un dernier et bon coup de dent au premier chien qu'il lança en l'air et qui alla retomber, brisé et saignant, à quelques pas plus loin. Ensuite, Cadichon saisit par la queue celui qui tenait le pan de mon habit, ce qui le lui fit lâcher immédiatement. Après l'avoir tiré au loin, il se retourna avec une agilité surprenante et lui lança à la mâchoire une ruade. Pouf ! Qui doit lui avoir cassé quelques dents. Les deux chiens se sauvèrent en hurlant et je me préparais à descendre de l'arbre lorsque vous êtes arrivé.
On admira beaucoup mon courage et ma présence d'esprit et chacun vint à moi me caresser et m'applaudir. Vous voyez bien, dit Jacques d'un air triomphant et l'œil brillant de bonheur, que mon ami Cadichon est redevenu excellent. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi je l'aime plus que jamais. N'est-ce pas, mon Cadichon, que nous serons toujours bons amis? Je répondis de mon mieux par un vraiment joyeux. Les enfants se mirent à rire et se mettant à table, ils continuèrent leur repas. Madeleine servit sa crème. La bonne crème, dit Jacques. J'en veux encore, dit Louis.
Et moi aussi, dirent Henriette et Jeanne.
Madeleine était contente du succès de sa crème. Il est juste de dire que chacun avait réussi parfaitement, que le déjeuner fut mangé en entier et qu'il n'en resta rien. Le pauvre Jacques eut pourtant un moment d'humiliation. Il s'était chargé des fraises à la crème. Il avait sucré sa crème et il avait versé dedans les fraises tout épluchées. C'était très bien. Malheureusement, il avait fini avant les autres. Voyant qu'il avait du temps devant lui, il voulut perfectionner son plat et se mit à écraser les fraises dans la crème. Il écrasa si longtemps et si bien que les fraises et la crème ne firent plus qu'une bouillie qui devait avoir très bon goût, mais qui n'avait pas très bonne mine. Lorsque le tour de Jacques arriva et qu'il voulut servir ses fraises,
« Que me donnes-tu là ? » s'écria Camille. « De la bouillie rouge, qu'est-ce que c'est ? Avec quoi l'as-tu fait ?»«
Ce n'est pas de la bouillie rouge, » dit Jacques un peu confus. « Ce sont des fraises à la crème. C'est très bon, je t'assure, Camille. Goûte-en. » Tu verras.
Des fraises, dit Madeleine. Où sont les fraises? Je ne les vois pas. C'est dégoûtant ce que tu nous donnes.
Mais oui, c'est dégoûtant, s'écrièrent tous les autres. Je croyais que ce serait meilleur écrasé, dit le pauvre petit Jacques, les yeux pleins de larmes. Mais si vous voulez, j'irai vite cueillir d'autres fraises et chercher de la crème à la ferme.
Non, mon petit Jacques, dit Elisabeth. touché de sa douleur. La crème doit être très bonne. Veux-tu m'en servir? Je la mangerai avec grand plaisir.
Jacques embrassa Élisabeth. Sa figure reprit un air joyeux et il en servit plein une assiette. Les autres enfants, attendris comme Élisabeth par la bonté et la bonne volonté de Jacques, lui en demandèrent tous et tous, après en avoir goûté, déclarèrent que c'était excellent. Le petit Jacques, qui avait examiné avec inquiétude leur visage pendant qu'il goûtait à sa crème, redevint joyeux quand il vit le succès de son invention. Le déjeuner fini, ils se mirent tous à laver la vaisselle dans un grand baquet qui avait été oublié la veille et que la gouttière avait rempli dans la nuit. Ce ne fut pas le moins amusant de l'affaire, et la vaisselle n'était pas encore finie quand l'heure de l'étude sonna et que les parents rappelèrent leurs enfants pour se mettre au travail. Ils demandèrent un quart d'heure de grâce pour achever de tout essuyer et ranger. On le leur accorda. Avant que le quart d'heure fût écoulé, tout était rapporté à la cuisine, mis en place, les enfants étaient au travail et Auguste avait fait ses adieux pour retourner chez lui. Avant de s'en aller, Auguste m'appela et me voyant approcher, il courut à moi, me caressa et me remercia par ses paroles et par ses gestes du service que je lui avais rendu. Je vis ce sentiment de reconnaissance avec plaisir. Il me confirma dans la pensée qu'Auguste était bien meilleur que je ne l'avais jugé d'abord, qu'il n'avait ni rancune ni méchanceté, et que s'il était poltron et un peu bête, ce n'était pas sa faute. J'eus l'occasion, peu de jours après, de lui rendre un nouveau service. Chapitre 26. Le bateau. Quel dommage, s'écria Jacques, qu'on ne puisse pas faire tous les jours un déjeuner comme celui de la semaine dernière. C'était si amusant. Et comme nous avons bien déjeuné, dit Louis.
Ce qui m'a semblé le meilleur, dit Camille, c'était la salade de pommes de terre et la vinaigrette de veau. Je sais bien pourquoi, répondit Madeleine. C'est parce que maman te défend habituellement de manger des choses vinaigrées. C'est possible, dit Camille en riant. Les choses qu'on mange rarement semblent toujours meilleures, surtout quand on les aime naturellement.
Que ferons-nous aujourd'hui pour nous amuser? Demanda Pierre.
C'est vrai, c'est notre mercredi, dit Élisabeth. Nous avons congé jusqu'au dîner.
Si nous pêchions une friture dans le grand étang, proposa Henri.
Bonne idée, s'écria Camille. Nous aurons un plat de poisson pour demain, jour maigre. Comment pêcherons-nous? Demanda Madeleine. Avons-nous des lignes?
Nous avons assez d'hameçons, dit Pierre. Ce qui nous manque, ce sont des bâtons, des cannes à pêche pour attacher nos lignes. Si nous demandions qu'on nous en achète au village, dit Henri. Oh, on n'en vend pas là, il faudrait aller jusqu'à la ville, dit Pierre.
Voilà Auguste qui arrive, dit Camille. Il a peut-être des cannes à pêche chez lui. On les enverrait chercher avec les poneys.
Moi, j'irai avec Cadichon, dit Jacques.
Et tu ne peux pas aller si loin tout seul, s'écria Henri. Oh, ce n'est pas loin, dit Jacques. C'est à une demi-lieue, c'est-à-dire à 2 kilomètres.
Qu'est-ce que vous voulez aller chercher avec Cadichon, mes amis?
Demanda Auguste qui arrivait. Des cannes à pêche, répondit Pierre. En as-tu, Auguste?
Non, mais il n'y a pas besoin d'aller en chercher si loin. Avec des couteaux, nous en ferons nous-mêmes, autant que nous en voudrons.
Tiens, c'est vrai, dit Henri. Comment n'y avons-nous pas songé?
Allons vite en couper dans le bois. Avez-vous des couteaux? J'ai le mien dans ma poche.
J'en ai un excellent que Camille m'a rapporté de Londres, en Angleterre, dit Pierre.
Et moi aussi, dit Henri, j'ai celui que m'a donné Madeleine.
Et moi aussi j'ai un couteau, dit Jacques.
Moi aussi, dit Louis.
Venez avec nous alors. Pendant que nous couperons les gros brins de bois, vous les petits, vous enlèverez l'écorce et les petites branches.
Et nous, que ferons-nous en attendant, dirent Camille, Madeleine et Élisabeth.
Faites préparer ce qui est nécessaire pour la pêche, répondit Pierre. Le pain, les vers, les hameçons. Et tous se dispersèrent, allant chacun à son affaire. Je me dirigeai donc tout doucement vers l'étang et j'attendis plus d'une demi-heure l'arrivée des enfants.
je les vis enfin accourir, tenant chacun sa gaule, chacun la pêche, et apportant les hameçons et autres objets dont ils pouvaient avoir besoin. « Je crois, dit Henri, qu'il faudra battre l'eau pour faire venir les poissons au-dessus. »« Au contraire, dit Pierre, il ne faut pas faire le moindre bruit. Les poissons iraient tout au fond dans la vase si nous les effrayons. »«
Je crois qu'il serait bon de les attirer en leur jetant les miettes de pain, dit Camille. »« Oui, reprit Madeleine, mais pas beaucoup. Si nous leur en donnons trop, ils n'auront plus faim. »« Attendez, s'écria Elisabeth, laissez-moi faire. » Occupez-vous de préparer les hameçons pendant que je leur jetterai du pain.
Elisabeth prit le pain. À la première miette qu'elle jeta, une demi-douzaine de poissons s'élancèrent dessus. Elisabeth en jeta encore. Louis, Jacques, Henriette et Jeanne voulurent l'aider. Ils en jetèrent tant, tant et tant que les poissons, rassasiés, ne voulurent plus y toucher.
Je crains que nous n'ayons trop jeté, dit Elisabeth tout bas à Louis et à Jacques.
Qu'est-ce que ça fait? Ils mangeront le reste ce soir ou demain?
Oui, mais ils ne voudront plus mordre un hameçon. Ils n'ont plus faim.
Aïe, 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 dit Jacques. Les cousins et les cousines ne seront pas contents.
Ne disons rien. Ils sont occupés à leurs hameçons. Peut-être les poissons mordront-ils tout de même.
Voilà les hameçons prêts, dit Pierre, en apportant les cannes à pêche et les lignes. Prenons chacun notre ligne et lançons-la dans l'eau. Chacun prit sa ligne et la lança comme disait Pierre. Ils attendirent quelques minutes en prenant garde de faire du bruit. Le poisson ne mordait pas.
La place n'est pas bonne, dit Auguste. Allons plus loin.
Je crois qu'il n'y a pas de poisson ici, dit Henri, car voilà plusieurs miettes de pain qui n'ont pas été mangées.
Allez au bout de l'étang, près du bateau, dit Camille.
C'est bien profond par là, dit Pierre.
Crains-tu que les poissons ne se noient, dit Elisabeth.
Oh, pas les poissons, mais l'un de nous, s'il venait à y tomber, répondit Pierre. Mais comment veux-tu que nous tombions, dit Henri. Nous ne nous approchons pas assez du bord pour glisser ou rouler dans l'eau. C'est vrai, dit Pierre, mais je ne veux pas tout de même que les petits y aillent. Oh, je t'en prie, Pierre, demanda Jacques. Laisse-moi aller avec toi, nous resterons très loin de l'eau. Non, non, dit Pierre, restez où vous êtes. Nous reviendrons bientôt vous rejoindre, car je ne pense pas que nous trouvions là-bas plus de poissons que par ici. D'ailleurs, ajouta-t-il en baissant la voix, c'est votre faute si nous n'avons rien pu attraper. Je vous ai bien vu, vous avez jeté 10 fois trop de pain. Je ne veux pas le dire à Henri, à Auguste, à Camille et à Madeleine, mais il est juste que vous soyez punis de votre étourderie. Jacques n'insista pas et raconta aux autres coupables ce que venait de lui dire Pierre. Ils se résignèrent à rester à la place où ils étaient, attendant toujours que les poissons voulussent bien se laisser prendre et n'en prenant aucun. J'avais suivi Pierre, Henri et Auguste au bout de l'étang. Ils jetèrent leur ligne, pas plus de succès que là-bas. Ils eurent beau changer de place, traîner les hameçons, les poissons ne paraissaient pas.
« Mes amis, dit Auguste, j'ai une excellente idée. Au lieu de nous ennuyer à attendre qu'il plaise aux poissons de venir se faire prendre, faisons une pêche en grand. Prenons-en 15 ou 20 à la fois. »«
Comment ferons-nous ? Demanda Pierre. Pour en prendre 15 ou 20, puisque nous ne pouvons pas en prendre un seul.
Avec un filet, dit Auguste, qu'on appelle un épervier.
Mais c'est très difficile, dit Henri. Papa dit qu'il faut savoir le lancer.
Pas difficile, quelle folie. Moi j'ai lancé 10 fois, 20 fois l'épervier. C'est très facile.
Et as-tu pris beaucoup de poissons, demanda Pierre.
Ah, je n'en ai pas pris, parce que je ne le lançais pas dans l'eau.
Comment? Où et sur quoi le lançais-tu, demanda Henri.
Sur l'herbe ou sur la terre, seulement pour m'apprendre à le bien jeter.
Mais ce n'est pas du tout la même chose, dit Pierre. Je suis sûr que tu le lancerais très mal sur l'eau.
Mal? Tu crois cela? Tu vas voir si je le lance mal. Je cours chercher l'épervier qui sèche au soleil dans la cour.
Non, Auguste, je t'en prie, dit Pierre. S'il arrivait quelque chose, papa nous gronderait.
Et que veux-tu qu'il arrive, puisque je te dis que chez nous, on pêche toujours à l'épervier. Je pars. Attendez-moi, je ne serai pas longtemps.
Et Auguste partit en courant, laissant Pierre et Henri mécontents et inquiets. Il ne tarda pas à revenir, traînant après lui le filet.
Voilà,
dit-il en l'étalant par terre.
À présent, gare les poissons.
Il lança l'épervier assez adroitement. Il le tira avec précaution et lenteur.
Tire donc plus vite, nous n'en finirons pas, dit Henri.
Non, non,
dit Auguste.
Il faut le ramener tout doucement. Pour ne pas faire rompre le filet qui ne se craque pas et pour ne laisser échapper aucun poisson.
Il continua à tirer et quand tout fut amené, le filet était vide. Pas un poisson ne s'était laissé prendre.
Oh, dit-il, une première fois ça ne compte pas. Il ne faut pas se décourager, recommençons.
Il recommença, mais ne réussit pas mieux la seconde fois que la première.
« Je sais ce que c'est, » dit-il. « Je suis trop près du bord. Il n'y a pas assez d'eau. Je vais entrer dans le bateau. Comme il est très long, je serai assez éloigné du bord pour pouvoir bien développer mon épervier. »«
Non, Auguste, » dit Pierre, « ne va pas dans le bateau. Avec ton épervier, tu peux t'embarrasser dans les rames et les cordages. » Et tu ferais la culbute dans l'eau.
Mais tu es comme un bébé de 2 ans, Pierre, répliqua Auguste. Moi, j'ai plus de courage que toi, tu vas voir.
Et il s'élança dans le bateau qui alla de droite et de gauche. Auguste eut peur, et je vis qu'il allait faire quelques maladresses. Il déploya et étendit mal son filet, gêné comme il l'était par le mouvement du bateau. Ses mains n'étaient pas très rassurées. Il chancelait sur ses pieds. L'amour-propre l'emporta toutefois et il lança l'épervier. Mais le mouvement fut arrêté par la crainte de tomber à l'eau. L'épervier s'accrocha à son épaule gauche et lui donna une secousse qui le fit tomber dans l'étang, la tête la première. Fin de la première farce de la 7e cassette, page 242, Les mémoires d'un âne, par la comtesse de Ségur.